rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour. Thibaut Dautuil à ce micro de Radio Présence pour une nouvelle session de nos rencontres périodiques avec les évêques de notre belle province de Midi-Pyrénées. Pendant quelques semaines, je suis accompagné de Monseigneur Echène. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous.
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Un des bénéfices de cette démarche du synode sur la synodalité pourrait donc être de nous faire comprendre que le synode peut se vivre à toutes les échelles de la vie de l'Église. Dès le plus petit, en fait,
oui.
Et que c'est un encouragement donc à ce que ce marché ensemble se vive dès le plus petit échelon de la vie.
C'est vrai que nous faisions allusion à la vie de famille.
Mm.
Alors on est héritier de cultures qui sont parfois patriarcales. Bon, sans faire allusion à certains films mettant en scène Jean Gabin, par exemple, où c'est vraiment le patriarche qui prend les décisions pour toute la famille. Mais dans une famille chrétienne, se dire, ben, peut-être que, tiens, quand on va réfléchir à notre lieu de destination pour prendre des vacances d'été, associer peut-être les enfants de toute génération, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après avoir écouté tout le monde, il faut bien trancher, mais cette démarche synodale, effectivement, elle commence à la plus petite échelle et jusqu'à la plus haute, entre guillemets, c'est-à-dire que le pape aujourd'hui nomme dans des dicastères, qui sont des ministères, alors que traditionnellement, les gens qui avaient la responsabilité dans ces dicastères étaient des évêques, des cardinaux et des hommes, eh bien un homme a des femmes à des postes à responsabilité, des postes très importants. Donc cette synodalité, il faut qu'elle commence dès la plus petite échelle pour atteindre le sommet de notre organisation, même si la notion de sommet... Le Christ dans l'Évangile inverse tout, c'est-à-dire celui qui est le plus grand finalement, le Christ, c'est celui qui s'abaisse le plus et qui lave les pieds de ses disciples. Donc le plus grand, c'est le serviteur. Donc, mais on est toujours rattrapé par la logique du monde et on oublie cette logique de l'Évangile. Donc régulièrement, il faut s'arrêter, il faut se dire, mais par rapport à ce que nous demande Jésus, où en est-on? Est-ce qu'on n'a pas finalement assumé la logique de l'Empire, d'une organisation politique? Et est-ce qu'on n'a pas perdu le suc de l'Évangile au passage? Alors on est dans une période de vie de l'Église où de manière dramatique et de manière extrêmement violente à travers cette lumière noire terrible qui nous met devant les yeux ce dont ont été victimes des enfants, des jeunes ou des personnes fragiles, eh bien on redécouvre qu'au passage on a laissé une partie du message évangélique et que vraiment il faut qu'on retrouve cela.
Est-ce que justement il n'y a pas un risque en France particulièrement, étant donné cette actualité dont vous parlez, de mélanger le travail sur ce synode avec l'envie et le besoin exprimé par de nombreux d'un processus synodal pour répondre à la question des abus sexuels?
Oui, il y a ce danger, je dirais, ce serait le danger de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que là, on est au début d'un processus. On se dit, on ne peut pas rester en l'état.
Mmh.
Et en même temps, si on appliquait du jour au lendemain les préconisations parfois un peu contradictoires de tel ou tel groupe de pression. Alors, c'est pas péjoratif hein, quand je dis groupe de pression, parce qu'il y a des gens qui légitimement se disent... faut qu'on fasse pression, y compris sur les évêques, sur la hiérarchie, sinon ils vont à nouveau décider tout seuls. Et c'est sans doute légitime de se dire cela, mais parmi ces différents groupes qui disent qu'il faut changer, réformer la vie de l'Église, il y a des options plus ou moins radicales, plus ou moins contradictoires, donc il faut entendre ça, il ne faut pas à nouveau être sourd, il faut vraiment prendre le temps d'écouter, trier, et puis... essayer de mettre en place des choses qui seront durables, parce que parfois en allant trop vite, on s'aperçoit qu'on ne prend pas forcément la meilleure décision. Alors évidemment, il ne faut pas se servir de cette idée qu'il ne faut pas se précipiter pour attendre que la tempête passe et finalement ne rien faire, continuer comme avant. Ce serait le grand risque, et c'est bien qu'il y ait des gens qui nous mettent l'épée dans les reins en disant « bon, Cette fois, j'espère quand même qu'on va finir par changer des choses.
Oui.
Mais voilà, il faut accueillir cela, il faut l'accueillir avec bienveillance. Ne pas être dans une attitude psychologique qui serait citadelle assiégée. Ces gens nous veulent du mal, ils veulent nous obliger à changer, mais à l'accueillir de manière bienveillante et retenir vraiment le meilleur en essayant d'accueillir d'ailleurs ou d'obtenir le consensus de ceux qui nous mettent un peu la pression en disant voilà, on a réfléchi à ce que vous nous disiez, si on met ça en place, est-ce que ça vous semble cohérent? Y compris en intégrant des personnes qui ont souffert des
Oui,
situations
monsieur.
précédentes, pour qu'elles valident en quelque sorte, dans la mesure du possible, tel ou tel dispositif.
Mais il faut en parallèle laisser la place à ce que le chemin du synode sur la synodalité soit vraiment vécu pour ce qu'il est, de manière, j'allais dire, pure, comme un sujet en soi, détaché de toute actualité, de toute pression, justement. C'est essentiel.
Oui, cette pression-là, effectivement, nous, on a fait un petit peu le lien, y compris dans la présentation qu'on a fait du synode à notre diocèse. On a dit, parce que le pape lui-même le disait, en quelque sorte, les événements dramatiques qui nous marquent manifestent de manière flagrante que cette réforme est urgente. Mais même s'il n'y avait pas eu ces événements dramatiques, cette réforme-là, il eût fallu l'engager Et voilà, donc là on y
Le
est.
pape y tient depuis longtemps. Enfin, c'est,
Oui.
je sais pas, on peut presque vivre ça comme le climax de son passage sur Terre. Le pape François,
Ah oui.
il en parle depuis longtemps. Ça y est, il l'a engagé après deux autres synodes. C'est le troisième qu'il engage. Et alors, on ne peut que prier pour qu'il soit encore là dans 2 ans pour en prononcer les conclusions en octobre 23. Mais c'est
ça, c'est vraiment le cœur de son charisme.
oui.
Ce qu'il restera de son pontificat, c'est sans doute en grande partie cela, parce que
oui.
c'est cela qu'il porte depuis le début. D'ailleurs, son premier geste, quand il a demandé la bénédiction, le jour où il a été élu pape, la bénédiction de la foule qui était sur la place Saint-Pierre, ça dit cela. Ça dit cela déjà à travers un signe et un symbole. Et donc, il lâche pas le morceau, quoi.
Il lâche pas le morceau, mais on ne lâchera pas non plus. J'aimerais revenir peut-être, tout à l'heure vous nous avez dit que ce rapport, vous l'avez reçu à un moment assez incroyable, c'est que vous avez organisé une retraite des prêtres de votre diocèse à Ancalca, et il s'est trouvé que c'était juste après le rapport.
Oui.
Donc vous avez eu l'occasion en fait de l'accueillir entre vous de manière très privilégiée.
Effectivement, cette retraite était programmée depuis longtemps. Elle est dans notre diocèse, elle est toujours à cette période-là. Mais elle arrivait au bon moment parce que, après un tel choc, on a parfois simplement envie de se taire et de se mettre humblement devant Dieu et de ne pas nous y retrouver tout seul, d'être aussi, de porter ensemble la croix. Alors la première croix qui est portée, c'est celle d'abord des victimes. Et donc notre responsabilité des personnes victimes, c'est celle d'être dans l'empathie et dans la compassion. Donc ça, c'est la première chose. Mais même pour être dans l'empathie et dans la compassion, il faut pouvoir y être ensemble. Et ensuite, ensemble, porter à la fois notre honte, disant bah oui, c'est pas très brillant, et notre volonté de réforme. Dans le cadre de cette retraite, bien sûr, en soirée, on a pris des temps de partage avec Monseigneur Bustillo, le nouvel évêque d'Ajaccio, là, qui nous a accompagnés et qui a beaucoup travaillé sur, il nous a aidé à réfléchir sur, dans un moment de crise, et il arrive que dans la vie d'un prêtre, il y a des moments de crise, il nous faut revenir à nos racines, et nos racines, elles sont inscrites, écrites, même noir sur blanc, dans le rituel de notre ordination. Quelle est la mission, le sacrement que Dieu a imprimé en nous et qui dit notre identité profonde? Donc, Monseigneur Bustillo nous a invités à revenir à ses racines et il nous a aidés à entrer au cœur de ce mystère de notre sacerdoce dans lequel le Seigneur est venu nous chercher avec nos fragilités, les connaissant parfois mieux que nous-mêmes, ces fragilités qui sont en nous. Et voilà, avec ces fragilités-là, qui sont en nous, avec ces drames qui ont été manifestés dans la vie de notre Église, comment on ne tombe pas dans le désespoir et l'envie de tout lâcher, en disant c'est pas possible, on peut pas continuer. mais comment le Seigneur compte sur nous à frais nouveaux. Et avoir eu une semaine avec le soutien de la prière de nos frères moines dans cette abbaye bénédictine, là dans Kalka, ça a été vraiment pour nous un temps très, très fort et très salutaire. Et évidemment, on portait l'ensemble de nos communautés chrétiennes dans notre prière pendant tous ces jours. On n'est jamais tout seul quand on part en retraite.
Une forme de retour sur ce que vous appeliez tout à l'heure la conscience du sacrement de l'ordre qui fait que vous êtes prêtre et qui est votre singularité et qui fait que nous, peuple de Dieu, avons tant besoin de vous.
Oui, faut dire cela aussi.
merci pour ces échanges autour de votre diocèse et de la manière dont vous avez vécu toutes ces périodes difficiles. Merci beaucoup, Monseigneur Echen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Rencontre avec nos évêques.